Bonjour à tous, Jean-Sébastien Dufresne qui vous parle de Vancouver cette semaine en Colombie-Britannique où se déroule la conférence pan-canadienne sur le développement économique communautaire organisée par le réseau canadien du développement économique communautaire. Quand on entend parler de développement, on pense souvent au développement international, donc d'un développement qui se déroule dans des pays éloignés de chez nous. Et ce réseau canadien de développement économique communautaire regroupe des praticiens de par le pays qui, eux, agissent et interviennent particulièrement par rapport au développement ici même au pays, dans le but de permettre aux citoyens de se réapproprier leur communauté et ainsi de faire en sorte de pouvoir lutter contre l'exclusion sociale. J'ai rencontré pour vous Mike Lewis, qui est cofondateur du Réseau canadien de développement économique communautaire et directeur général du Center for Community Enterprise, qui lui va nous parler des orientations de ce mouvement et du contexte qui l'a fait évoluer au cours des dernières années. Nous allons parler également avec Christian Clément, qui lui est co-président du comité des jeunes leaders du réseau, afin qu'il nous explique le rôle des jeunes dans tout ce mouvement de développement communautaire. Mais pour débuter, nous parlons avec Dal Broadhead, qui est lui directeur général de la firme Econov Développement, une firme de consultants qui favorise la responsabilité sociale des entreprises et qui a été également cofondateur du Réseau canadien de développement économique communautaire. Il va nous parler, lui, de ce qui a mené à la création de ce réseau pan-canadien. Alors, bonjour, M. Broadhead.
Bonjour, bonjour.
C'est quand même une grande conférence qui se déroule sur plusieurs jours ici à Vancouver. Une conférence qui porte sur le développement économique communautaire. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'on entend par développement économique communautaire?
C'est vraiment une approche qui prend en sérieux le milieu et les besoins de milieu. Et avec tous les aspects de développement, ça veut dire économique, social, culturel, tout ça. Et on aide le monde dans les milieux de planifier leur futur avec tous ces aspects en main et avec un contrôle du milieu, si possible.
Et cette conférence qui a débuté, je crois, en 98, qui a été la première édition, ça a été une conférence qui a été créée par ce réseau canadien de développement économique communautaire. Pourriez-vous nous expliquer quel est cet organisme?
Ça rassemble la plupart des acteurs majeurs dans le mouvement de développement économique et économie sociale à travers le pays. La plupart sont des gens qui travaillent dans les milieux pour des organisations communautaires, financées ou par le milieu ou par le gouvernement pour essayer d'aider les milieux, surtout les milieux dépauvrisés, quoi, qui ont des problèmes, pour essayer de trouver des solutions au niveau local aux problèmes et de planifier leur futur avec un bénéfice à tout le monde dans le milieu.
Et ce réseau-là qui a été créé il y a déjà plusieurs années, qu'est-ce qui a motivé la création d'un réseau comme celui-là et comment ça s'est fait, là, puisque vous êtes un des membres fondateurs de ce réseau?
Un ancien, oui, oui. C'était vraiment commencé à cause du fait qu'on a trouvé il y a à peu près 20 ans qu'il y avait du monde qui travaillait à peu près dans certains milieux à travers le pays, mais travaillait en isolement. Et de temps en temps, on nous a rencontrés à des conférences et tout ça, et on a vu, on avait des approches un peu semblables, où le milieu et les besoins de milieu étaient bien importants, le contrôle du milieu était bien important, et on a trouvé qu'on était trop isolés, et c'était important d'apprendre entre nous-mêmes, ensemble, discuter c'est quoi les leçons qu'on a apprises, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment bien faire le travail dans les milieux, avec le monde, bien impliqué. Après un certain nombre de discussions à travers le téléphone, surtout parce que le Canada est pas mal vaste, on a choisi une conférence à Chicago, parce que c'était un réseau aux États-Unis qui avait une réunion à leur 25e anniversaire de l'économie sociale, le travail dans ce milieu. Aux États-Unis, on était à peu près une dizaine qui sont allés là, des Canadiens qui sont allés là, et en même temps, on a eu notre première réunion là-bas pour planifier de créer un réseau.
Et depuis ce temps, le réseau a pris beaucoup d'ampleur. Au début, vous étiez une douzaine de membres?
Une douzaine, et ça a pris probablement 3-4 ans de travail qu'on a financé nous-mêmes. On avait des réunions peut-être un ou deux fois par année, des retraites de 2-3 jours pour discuter quoi faire. Parce qu'on avait des expériences au passé où du monde a essayé de faire la même chose avec un network et ça n'a pas marché. C'était pas le temps. Finalement, on a trouvé que c'était le temps. Mais pour bien planifier ça et bien impliquer le monde, parce que c'est compliqué. On a beaucoup d'intérêts différents, beaucoup d'expériences différentes, et ça a pris du temps pour planifier ça. Peut-être 4 ans de travail, en plus que le travail qu'on faisait normalement dans les milieux, et finalement, on a essayé avec une conférence. Il y avait aussi une conférence à Montréal qui est importante, où il y avait à peu près 500 personnes, la plupart de la France, qui sont arrivées. Et tout un coup, on a aperçu qu'il y avait beaucoup de monde qui trouvait que c'était important. Et ça a souligné l'importance d'avoir nous-mêmes, chez nous, quelque chose, un network à travers le pays.
On dit 625 participants cette année à la conférence, qui montre quand même une grande progression depuis vos premiers moments. Comment a évolué depuis ces débuts là, la conception du développement économique communautaire et la situation? On sait qu'il y a eu beaucoup de programmes qui ont été mis de l'avant. Comment est-ce que vous évaluez, si on fait le bilan depuis le début, là, brièvement bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais quelles sont les grandes lignes là?
Je pense qu'au passé, quand on a commencé, on était convaincus en théorie que c'était une approche importante. Mais en pratique, on n'a pas beaucoup documenté l'expérience. Ça veut dire qu'on était en train de un peu convaincre le gouvernement de supporter le travail et les milieux de supporter cette sorte de travail. Mais on n'avait pas assez à dire en termes de l'expérience. Maintenant, la documentation est beaucoup mieux faite. On peut indiquer qu'il y a des résultats importants en termes sociaux, en termes culturels, en termes économiques. Et que c'est une approche efficace en plus que ça. Et en plus que ça, qu'on peut attaquer la pauvreté en sérieux. Probablement mieux fait, avec un travail beaucoup mieux fait que les gens de l'extérieur peuvent le faire.
On voit que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui mobilise beaucoup de gens. On voit cette année, il y a un processus qui est présentement en cours de renouvellement des politiques de l'organisation et de son plan d'action, quoi, des prochaines actions à mener. Qu'est-ce qu'on doit prévoir là, à venir par rapport à ce mouvement du Réseau canadien de développement économique communautaire?
Je pense que ça devient plus compliqué parce que, comme j'ai dit, on a commencé avec une dizaine de personnes. Et plus après une année ou 15 mois, on avait une centaine et tout ça. Et c'est beaucoup moins compliqué à créer des politiques et d'être ensemble et avec un consensus sur les directions et les approches et tout ça. Maintenant, on a des groupes de femmes, des groupes d'autochtones, des groupes de... beaucoup d'autres groupes qui veulent s'impliquer. Mais eux, ils ont des expériences, des approches différentes, et on doit essayer de les impliquer en réel. Et ça veut dire qu'on nous-mêmes, on doit adapter un peu et apprendre d'autres méthodes à travailler, d'autres expériences. Et ensemble, si on peut, et je pense qu'on arrive, on va bâtir un mouvement incroyable. On voit que le gouvernement, maintenant, voit qu'il y a quelque chose d'important. On voit aussi qu'il y a un volume de travail à travers le pays qui est impressionnant. Le gouvernement veut maintenant supporter ça. On ne veut pas devenir dépendant sur ce support, mais eux, ils peuvent donner un peu un support pour commencer des affaires et en plus que ça, pour créer un environnement en termes de réglementation et tout ça qui est positif au lieu d'être neutre ou négatif. On est différent. On a du monde qui ne sont pas d'accord avec cette sorte d'approche. Ça donne des défis à l'approche traditionnelle économique où les bénéfices arrivent aux compagnies, aux individus. Maintenant, nous-mêmes, on est convaincus qu'il faut avoir un développement qui supporte le travail et qui a des bénéfices pour tout le monde, y inclut les pauvres. Où on peut vraiment encourager du monde qui n'ont pas de ressources de s'embarquer avec nous pour qu'eux, ils puissent sortir de la pauvreté ou l'isolement ou n'importe quoi.
Et on voit également de plus en plus le mouvement international aussi qui se met de l'avant, de voir les relations avec d'autres groupes à l'étranger. Il y a des réseaux qui se créent également à l'étranger au niveau de l'économie sociale et du développement économique communautaire. Est-ce que le réseau embarque également dans cette vague-là là, de globalisation, de la solidarité? Est-ce que c'est souhaitable également de globaliser ce partage des connaissances?
À mon avis, c'est très important. Pour plusieurs raisons. La raison la plus importante, c'est qu'on peut apprendre entre nous-mêmes. Pour nous, ici au Canada, on peut apprendre des expériences des pays moins développés ou sous-développés. Je prends par exemple tout l'aspect microcrédit. J'ai par hasard travaillé là-dedans il y a une quinzaine, depuis 15 ans. Mais là, on voit que nous ici pouvons apprendre des approches de l'Asie, de Bangladesh, de Pérou, tout ça, qui nous aident ici à créer des approches différentes. Ça veut dire qu'on peut apprendre en deux sens. Ce n'est pas juste une question des Canadiens qui apportent une expérience aux pays sous-développés, c'est leur envers en plus. Et ça, c'est bien important. Et en plus que ça, on va voir les liens qui seront importants en termes des pressions globales, les pressions économiques qu'on doit au moins prendre en tête. Et on doit étudier les impacts sur les milieux qui sont importants, par exemple, tout l'aspect énergie. Si les prix sont plus hauts bientôt, ils sont hauts maintenant, ça va avoir un impact sur les milieux dépauvrisés beaucoup plus fort qu'ailleurs. Et on doit planifier pour ça. Et on doit trouver des alternatives. Et je pense ensemble, ici au Canada et à l'extérieur, ensemble, on peut trouver des choses. Et en plus que ça, on peut peut-être essayer de changer des approches.
Ce partage d'expériences, de connaissances et cette globalisation de la solidarité qui nous amène à mettre en commun nos forces également et expertise pour pouvoir avoir un développement commun et global de toutes ces communautés. Bien, Dal Broadhead, qui est directeur de la firme de consultants, le groupe Econov Développement et cofondateur du Réseau canadien du développement économique communautaire. Bien, félicitations pour le beau travail qui est fait jusqu'à maintenant. Et bien sûr, on encourage le réseau à poursuivre son beau travail. Bien, merci beaucoup de votre passage à l'émission.
Merci beaucoup aussi.
Joyeusement désespéré, désespérément joyeux, tirez les joyaux de la joie comme les marrons du feu. Oui, ça brûle un peu les doigts, dramatisons pas. Je méprise pas le charbon, c'est bon pour l'estomac. L'amertume enrhume et le dégoût tanné. La vie nous déplume, la mort nous pomponne. Allez! Désespéré et désespérément
joyeux,
faut les avoir accrochés devant tous les fâcheux. Et pas perdre son sang-froid quand on est la proie d'un regard à se reprocher, d'un faux pli, d'un faux pas. Y'en a qui m'énervent tant ils sont poignés, mais qu'on ne le sait, celui qui est toujours gay. Allez! Joyeusement désespéré et désespérément
joyeux,
on se prend de petits bonheurs dans les tas de pesanteur. Si les gens sont lourds, c'est pas du côté du cœur. Après coup ils courent, sont-ils en temps à la bonne heure. Vamonos, 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 vamonos a alegría y encelamos a todos. Vámonos, vámonos, vámonos
a alegría.
Nos vamos a hacer claro.
Alegría.
Construisons plus de sandwichs et polluons plus. Cela
va de soi, était cruisant. La nature a grand renfort d'hydrocarbures. Non mais, il nous y ferait croire à toutes leurs marées noires, à leurs coupables blancs.
La Chango Family est joyeusement désespérée sur les ondes du FM 103.3, l'émission des voix d'ici. Et là, je me trouve cette semaine à Vancouver, où se tient la conférence pancanadienne sur le développement économique communautaire. Nous avons entendu tout juste avant Dal Broadhead, qui est cofondateur du Réseau canadien de développement économique communautaire, qui nous parlait des origines de ce mouvement et de ce que l'on entend par la notion de développement économique communautaire. Un mouvement qui en est à un point tournant cette année. Dans le cadre de cette conférence, il est abordé la question du renouvellement des politiques du mouvement. Alors, un mouvement qui veut se repositionner et faire le bilan des dernières années en vue de mieux s'orienter pour les prochaines à venir. Et pour nous en parler, nous accueillons Mike Lewis, qui lui est également cofondateur du Réseau canadien de développement économique communautaire et directeur général du Center for Community Enterprise à Port Alberni, ici même en Colombie-Britannique. Alors bonjour, Monsieur Lewis.
Hi, how are you?
Très bien, merci. Monsieur Lewis, pourriez-vous nous expliquer dans quel contexte le réseau s'est doté d'un programme politique et en quoi il consiste?
Well, I think first of all, the whole policy.
D'abord, l'ensemble du processus d'établissement d'un programme politique au sein du réseau a commencé en l'an 2000, alors que nous avons impliqué les diverses régions dans un débat sur ce qui fonctionne dans nos communautés et ce qui nous limite dans nos progrès, notamment en ce qui concerne notre capacité à réduire la pauvreté, à aider les gens à être prêts et en mesure de participer pleinement au marché du travail, des personnes qui souvent sont exclues pour un bon nombre de circonstances. Comment nous traitons notamment des questions de capital et du manque d'accès au financement pour certains types d'entreprises en développement et pour les gens qui sont marginalisés tout simplement et qui n'ont pas d'accès au crédit. Alors, tels sont les enjeux du développement au niveau local qui sont souvent critiques pour faire une différence, pour faire en sorte de créer des communautés qui peuvent être toujours plus inclusives. Et comment le réseau a-t-il convenu des actions qu'il devait prioriser dans son cadre politique? À partir de ce processus et d'un forum sur la politique qui s'est tenu en 2001, ici même, à Vancouver, nous avons regroupé des individus de partout au pays et avons passé 4 jours à débattre de ce qu'étaient nos priorités les plus fondamentales au point où nous en étions à ce moment. Ces priorités comprenaient notamment de pouvoir disposer de moyens pour investir dans les capacités de développement des communautés et de changer certaines règles, notamment le régime d'assurance emploi ou l'accès pour tous aux services de garde pour enfants, en fait, de permettre aux familles marginalisées de pouvoir mener une vie pleinement active au Canada. Nous avons alors fait le constat des pratiques de nos propres membres qui obtenaient des résultats concluants et qui provenaient souvent d'approches intégratives qui combinaient les entreprises sociales et les programmes de support au travail tout en s'adressant à la communauté des employeurs avec un système pour accompagner les gens tout au long du processus pour les faire migrer de mode de vie où ils se sentaient pris dans un piège jusqu'à réellement pouvoir se prendre en main. Nous interpellions également le gouvernement afin qu'il adopte une approche différente, une approche de partenariat avec les communautés, afin de considérer les retombées que nous obtenions plutôt que simplement compter les chiffres en fonction de leurs orientations relatives à la rentabilité et ainsi transformer notre relation. Donc cela est un élément majeur. Puis il y avait un autre élément portant sur la façon dont nous pouvions bâtir les compétences de nos propres praticiens et comment développer de nouvelles générations de leaders. Ceci est un autre élément. Donc, nous avons la capacité, la compétence, puis le troisième élément, le grand C, c'était le capital. Donc, comment pouvons-nous générer l'accès tant au crédit qu'au capital de façon équitable pour permettre les investissements dans les titres d'entreprise qui ont comme but fondamental un but social et non pas uniquement un but de profit monétaire? Donc, cela était d'où nous partions. Donc, cela était il y a 5 ans et depuis, nous avons fait des progrès considérables. Et comment évoluer le contexte au fil des années qui ont suivi? Vous savez, nous avons travaillé avec le Chantier de l'économie sociale au Québec. Nous avions Paul Martin qui a fait l'annonce de l'initiative gouvernementale pour l'économie sociale. Durant cette dernière année, un enjeu majeur qui a émergé fut le problème des fuites d'argent au sein de développement des ressources humaines Canada. Comme vous vous rappelez peut-être du gouvernement chrétien qui avait beaucoup de problèmes avec ça et John Stewart qui fut impliqué dans ce manque de transparence dans la gestion des dépenses publiques. Définitivement, aucun de nos membres qui faisait du travail au niveau communautaire est impliqué de quelque façon que ce soit dans cette histoire, mais ils ont pourtant créé un système qui est devenu tellement bureaucratique et tellement orienté vers le contrôle à outrance, ce qui a conduit jusqu'au point où certains de nos membres devaient même justifier pourquoi ils achetaient du café équitable plutôt que du nabob, puisque ça coûte plus cher et ils cherchaient les miettes dans les lignes des budgets plutôt que d'évaluer les retombées de nos programmes. Donc cela créait d'énormes problèmes pour nous et la capacité de nos propres organisations et de nos communautés commençait à s'effriter. Pourtant, malgré ces problèmes du système qui nous créaient des obstacles comme le fait que certaines de nos organisations ont été même dissoutes par certaines mesures de privatisation, nous sommes quand même parvenus à réaliser de belles choses comme l'élargissement de notre communauté de pratique, ce qui est l'essence même de ce que nous faisons. Alors, comment vous y êtes-vous pris pour renverser la vapeur? Nous avons tenu une grande campagne. J'ai écrit 2 articles dans notre magazine Making Waves qui a fait le tour du pays, qui a mobilisé beaucoup de gens. Avec le Réseau canadien de développement économique communautaire et par son comité des ressources humaines qui travaillait sur ça et qui avait participé à des audiences parlementaires, nous avons finalement obtenu des rencontres avec des ministres et nous avons maintenant un processus en cours avec les cabinets de ministres et le Parlement par lequel nous commençons à revenir en arrière vers des mesures qui sont plus raisonnables dans la façon d'approcher les choses. Et maintenant, d'après vous, quels sont les nouveaux défis auxquels devra faire face le mouvement? En considérant le contexte de ce qui se déroule dans les communautés, on assiste à leur érosion et à un accroissement de l'exclusion d'individus. Lorsqu'on considère les sans-abri ou le nombre de personnes qui dépensent de 50 à 60 de leurs revenus sur la location de logements, ça devient un enjeu de plus en plus préoccupant. Les gens demeurent sur la limite d'être un sans-abri. Que l'on regarde n'importe lequel des enjeux de ce type, ce que nous commençons à dire est que nous avons besoin de nous présenté non seulement comme un exercice de réduction de la pauvreté, mais que nous disposons réellement d'un modèle de développement. Nous avons besoin d'un changement de paradigme. Nous avons besoin de plus de démocratie économique. Nous avons besoin de plus de contrôle au niveau communautaire. Et il y a davantage d'enjeux dans un contexte qui se veut de plus en plus large, des réalités qui vont nous forcer dans cette direction. Par exemple, le pétrole. Vous savez, j'avais prédit l'an dernier que le pétrole atteindrait 80 $ le baril. Il n'a atteint que 70 $. Mais je vous le dis, il va atteindre 150 $ le baril. Et cela va révéler certains aspects de la globalisation. Et nous allons devoir réinventer les économies locales et nos économies régionales. Et si nous voulons survivre avec une quelconque forme de dignité, nous allons devoir disposer de la capacité de sophistiquer certains modes de coopération et de collaboration. Si nous voulons trouver des façons d'être des communautés décentes et humaines qui pourraient devenir encore plus exclusives et qui démontreraient encore plus de disparités, puisque normalement, ce sont les personnes défavorisées qui sont les premières à être écartées, mais elles seraient ici écartées sur une échelle encore plus large. Quel impact croyez-vous que cette crise du pétrole pourrait avoir sur les communautés ici? Considérez le pétrole. Le pétrole est l'élément de base avec lequel nous produisons les pesticides, le gaz naturel et les éléments essentiels à la production agricole. Vous considérez l'irrigation pour l'eau, les routes qui doivent être entretenues, puis l'industrie du camionnage qui nous apporte notre nourriture. En Colombie-Britannique seulement, 90% de notre nourriture est transportée par les camions. Nous avons un problème ici. Le jour va bientôt arriver où la salade des mille îles ne sera plus. Donc, ce que moi et d'autres tentent de faire est d'introduire ces enjeux plus globaux et de commencer à en débattre afin de développer une compréhension de comment ces enjeux globaux vont affecter nos champs d'activité dans le développement économique communautaire et dans l'économie sociale, et nous tentons de ramener le social au cœur de notre vie économique. Je crois qu'il s'agit à long terme d'une question de survie.
Bring the social back into the heart of our economic life, I think is going to, in the long term, be a matter of survival.
Fantasme bulgare et Polymile le bazar à l'émission Des voix d'ici et là sur les ondes du FM 103.3. Je vous parle cette semaine de Vancouver où se tient la conférence pan-canadienne sur le développement économique communautaire. Nous parlons présentement avec Mike Lewis qui est le directeur général du Center for Community Enterprise et cofondateur du réseau canadien de développement économique communautaire. Monsieur Lewis, vous nous parliez de la crise du pétrole qui allait grandement affecter la sécurité alimentaire et que cela constituait un enjeu pour le développement économique communautaire.
Certainly, food security then is going to emerge as a more and more important issue.
C'est certain que la sécurité alimentaire va émerger comme étant un enjeu de plus en plus important. Cela va engendrer de nombreuses implications pour notre domaine d'activité parce que nous possédons les capacités qui sont très bien adaptées pour nous aider à nous préparer à ça, mais par contre, bon nombre de nos membres sont également trop dépendants du gouvernement et nous devons commencer à en parler. Nous parlons de responsabilisation, nous parlons d'entraide, nous parlons de solidarité, nous parlons de ces valeurs qui sont au cœur même de ce qui nous motive
à faire ce travail, mais ce réseau a un problème. Ce réseau a un problème puisque probablement 80% de notre financement provient du gouvernement. Donc, ce que je proposerai demain est un enjeu majeur. Nous voulons bâtir l'agenda communautaire et pour ce faire, je vais proposer une façon par laquelle nous commencerons à nous taxer nous-mêmes à travers des déductions à la source auprès de nos employés. Et je parle ici de notre membership à travers le pays. Alors, je ne vois pas pourquoi nous ne parviendrions pas à ramasser de 500 000 à 1 million de dollars par année vraiment simplement. Cela serait une façon de nous assurer que nous serons en position de conserver ce réseau avec une voix collective et ainsi pouvoir mobiliser des ressources d'une façon plus systématique et efficace, afin de pouvoir parler sans être vulnérable à un changement de gouvernement. Donc, des enjeux très intéressants qui nous convient à cette situation, nous devons réellement commencer à repenser non seulement les priorités des politiques, puisque je crois que les priorités que nous avions établies auparavant sont toujours pertinentes, mais nous devons remettre en contexte leur signification dans un cadre plus large.
Not only the policy priorities, although I think all of the priorities that we've had before still remain, but we've got to recontextualize their meaning into a larger framework.
En terminant, M. Lewis, compte tenu que vous êtes l'un des cofondateurs de ce réseau canadien du développement économique communautaire, comment entrevoyez-vous l'avenir de ce mouvement dans les prochaines années? Premièrement, je crois que nous avons le potentiel de continuer à croître à un rythme rapide dans la mesure où nous disposons des ressources nécessaires. Je ne crois pas qu'il s'agit ici de faire croître notre membership nécessairement en nombre. Je crois que nous devons également développer des alliances stratégiques autour des priorités clés qui sont critiques. Donc, par exemple, cette année à cette conférence, nous célébrons une alliance stratégique avec le chantier de l'économie sociale au Québec, qui est un réseau de réseaux très puissant dans le contexte québécois en termes d'économie sociale. Et nous avons cimenté notre coopération dans notre propre projet de politique publique afin d'avoir une plus grande cohésion. Cela doit être élargi. Je sais que par rapport à l'enjeu de la sécurité alimentaire, le magazine que mon organisme publie, Making Waves, nous ferons une parution spéciale sur ce thème. Donc, voici les enjeux critiques et comment pouvons-nous nous outiller davantage, non seulement par rapport aux politiques, mais aussi en créant davantage d'entreprises coopératives, d'entreprises sociales et de mécanismes pour collaborer et coopérer, pour notamment renforcer les systèmes de nourriture biologique régionaux, pour qu'ainsi nous commencions à réduire notre dépendance sur ces chaînes d'approvisionnement global. Également, comment pouvons-nous utiliser ces chaînes d'approvisionnement global existantes tout en travaillant sur une base à long terme afin de rendre le commerce équitable. Ceci implique donc le mouvement pour le commerce équitable et certaines personnes impliquées dans ce domaine sont ici à la conférence. Donc nous devons élargir leur présence au sein de notre membership. Je crois que l'autre élément qui est clair est que nous avons ici les représentants de différents pays dans le monde à cette conférence et que vous verrez que ce réseau au cours des 10 prochaines années aura un engagement beaucoup plus global dans le processus de bâtir ce type d'approche de développement centré sur la personne et sur la communauté partout autour du monde. Comme vous le saviez, alors que vous étiez à Dakar en novembre 2005, comme je l'étais, à la rencontre sur la globalisation de la solidarité du RIPES, le Réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire, où 1200 personnes de 66 pays étaient réunies. Cela s'avérait être un autre petit pas vers la réalisation à une échelle plus globale de comment nous pouvons commencer à avoir une voix pour les communautés sur une base globale et une voix pour l'économie sociale. Nous devons donc commencer à expliquer, éduquer et communiquer plus efficacement ce que l'on entend par développement économique communautaire et l'économie sociale, car je crois que cela est absolument critique pour notre futur.
I think it's absolutely critical to our future.
Mike Lewis, cofondateur du Réseau canadien de développement économique communautaire. C'est très inspirant de vous entendre parler de tout cela et on va bien sûr suivre les développements de ce réseau avec grand intérêt. Je vous remercie beaucoup pour votre passage à l'émission.
Okay, thank you.
Nous poursuivons l'émission Des voix d'ici et là de cette semaine spéciale sur la conférence pancanadienne sur le développement économique communautaire qui s'est tenue à Vancouver. Nous allons parler dans quelques instants avec Christian Clément, co-président du comité des jeunes leaders du réseau canadien du développement économique communautaire. Mais tout juste avant, nous écoutons Pépé et sa guitare et la pièce 5 cordes sur les ondes du FM 103.3.
retour à l'émission Des Voix d'ici et là, qui vous est présentée cette semaine directement de Vancouver dans le cadre de la conférence pan-canadienne du Réseau canadien du développement économique communautaire. Je me retrouve présentement avec Christian Clément, que nous avions rencontré il y a quelques semaines déjà lors d'un voyage à Dakar au Sénégal et où il organisait et encadrait une délégation de jeunes dans le cadre d'une conférence sur l'économie sociale qui se tenait au Sénégal. Et présentement, en fait tout récemment, Christian a été nommé co-président du comité des jeunes leaders du Réseau canadien de développement économique communautaire et il va nous en parler aujourd'hui. Alors bonjour Christian.
Salut Jean-Sébastien, ça va bien depuis Dakar?
Ah ben ça va très bien et toi?
Oui, ça va bien. J'ai gardé le soleil avec moi, je l'ai ramené.
Ah. Oui, tu es tout radieux d'énergie et d'enthousiasme à te voir comme ça. Et justement, tu as été récemment nominé au nom au titre de co-président de ce comité des jeunes leaders du Réseau canadien de développement économique communautaire. Quel est ce comité, en fait? D'où vient-il et pourquoi est-ce que le Réseau canadien de développement économique communautaire s'est doté d'un comité comme celui-là?
Le comité des jeunes leaders, c'est un comité où ce qu'on rassemble des jeunes praticiens en développement économique communautaire et en économie sociale. Pourquoi l'idée de ce comité, dans le fond, c'était pour regrouper plusieurs jeunes à travers le Canada pour pouvoir échanger sur les différentes pratiques puis pouvoir créer un certain réseau pan-canadien. L'objectif du réseau canadien, c'est l'échange, un peu de lobbying en développement économique communautaire. Donc, eux se sont dit que ce serait une bonne initiative de mettre en place un comité de jeunes qui vont, tu sais, éventuellement prendre plus de place. C'est pas éventuellement, on prend déjà notre place. Donc, en gros, c'est ça l'objectif premier du réseau et du comité des jeunes leaders.
Et ce comité-là, ça fait quelques années qu'il existe déjà. Quelles ont été ses réalisations là, par le passé et comment est-ce qu'on voit l'avenir là, en tant que comité des jeunes leaders?
Certaines de ces réalisations, par exemple, on peut mettre un projet concret qui avait été un objectif à long terme qui avait été inscrit en 2003, qui était de donner une expérience de travail à différents jeunes en développement économique communautaire. Donc, c'était une idée que le comité des jeunes leaders avait exposée et que le réseau canadien a un peu récupéré et ils ont trouvé le fonds pour pouvoir mettre en place 60 stagiaires à travers le Canada dans des organismes de développement économique communautaire. Ça, c'est un des projets qui a été réalisé en 2005. Un autre projet qui a été réalisé aussi, ça a été de pouvoir faire une recherche sur 15 organisations qui travaillent avec des jeunes ou qui travaillent sur des problématiques jeunesse. Donc, ça nous donnait un certain point de comparaison à travers le Canada sur des organisations, le par et pour et avec les jeunes. Ça, c'est quelques exemples concrets. C'est certain que le comité essaie aussi de faire, une fois par mois, ce qu'on appelle des appels de dialogue. C'est une fois par mois, on échange. On invite les jeunes à travers le Canada à pouvoir discuter sur un thème en particulier. Exemple, inclusion sociale et développement économique communautaire. On invite une personnalité, quelqu'un qui s'y connaît bien, pour pouvoir échanger avec le groupe. Comme ça, on partage un peu nos idées et nos expériences dans nos organisations respectives.
Et ce comité-là, de qui est-il composé? On dit de jeunes leaders, mais à quoi reconnaît-on un jeune leader là, du milieu du développement économique communautaire?
Bien, avant tout, c'est un appel de candidature. À travers le Canada, on a lancé via le réseau une ouverture pour le prochain comité qui est mis en place pour la prochaine année. Donc, à quoi on reconnaît un jeune leader? Bien, premièrement, c'est quelqu'un qui veut bien s'impliquer. Dans le comité. Donc, c'est quelques heures de bénévolat par mois. Il faut, premièrement, bien sûr, travailler en développement économique communautaire ou en économie sociale ou dans le milieu coopératif. C'est souvent des jeunes qui vont décider de faire des projets et qui ont un intérêt à pouvoir s'impliquer, à pouvoir partager avec d'autres personnes. On essaie bien sûr d'avoir le plus de gens bilingues possible, mais c'est pas nécessairement faisable. Mais par exemple, pour le prochain comité, on a maintenant 14 membres. Sur 14 membres, plus du trois quarts sont bilingues. Donc, on a des francophones qui viennent du Manitoba, On a des francophones qui sont aussi du Nouveau-Brunswick, des gens du Québec, des gens de la Colombie-Britannique. Donc, on peut pouvoir justement partager autant en anglais et en français.
Et pour toi, qu'est-ce que ça représente d'avoir un comité comme ça, le fait de regrouper ces jeunes-là qui, comme tu dis, sont motivés à vouloir partager ces expériences, à vouloir se mobiliser ensemble et à contribuer au mouvement du développement communautaire? Pour toi, personnellement, qu'est-ce que tu vois comme possibilité à travers ce mouvement?
Moi, les possibilités que je vois, bon, surtout au niveau du réseautage, puis de voir comment ça se passe en Alberta. Comment les jeunes, eux, se perçoivent par rapport à... au développement économique communautaire, comment ils font leur développement économique communautaire, autant dans les organisations qui travaillent avec les jeunes qu'un jeune qui travaille dans une autre organisation. Donc ça, je trouve ça important. Les autres possibilités que je vois avec le comité des jeunes leaders, dans le fond, c'est de pouvoir créer des projets et des ponts à travers le Canada qui sont vraiment importants. Donc ces réseaux-là, les contacts qu'on fait à travers le comité des jeunes leaders vont nous rester pour le reste de notre carrière plus professionnelle. Des contacts qu'on fait maintenant, on va sûrement peut-être les perdre en cours de route dans 20-30 ans, mais il y en a qui vont être là, donc on va pouvoir faire des projets. Éventuellement, peut-être les gens vont pouvoir se rassembler entre eux, permettre à quelqu'un de l'Alberta qui a envie d'aller travailler au Nouveau-Brunswick, « Ah, un contact, j'ai un emploi. » Donc, ça va peut-être permettre aussi une certaine mobilité des jeunes à travers même le Canada.
Et justement, ce comité qui mobilise, comme tu dis, 14 personnes de travers le Canada, quels sont les prochains défis que tu vois qui vont être sur lesquels le comité va être porté à devoir se pencher? Quelles sont les idées là, à venir pour ce beau comité? Peut-être que toi, tu en as personnellement ou au nom du comité, mais qu'est-ce qu'on voit là, pour la prochaine année se dessiner?
Pour la prochaine année, bon, essentiellement, on a déjà un plan stratégique qui est en place. Un des objectifs, c'est de porter la voix des jeunes sur le conseil d'administration. Ça a été fait, on a mis, il y a justement deux personnes qui sont sur le comité des jeunes leaders qui sont maintenant sur le conseil d'administration du Réseau canadien de développement économique communautaire. Donc, un de ces objectifs-là est rempli. Un autre objectif aussi, ça serait de pouvoir... peut-être impliquer davantage des gens dans certains projets à l'international ou pouvoir échanger avec d'autres pays, d'autres pratiques de développement économique communautaire, faire venir des gens ici au Canada ou permettre à des jeunes Canadiens d'aller à l'étranger. Ça, c'est un objectif. On peut également aussi peut-être monter un projet d'échange ou faire un genre de camp jeunesse basé sur l'économie sociale et le développement économique communautaire. Le défi, dans le fond, il n'y a pas vraiment de défi, il y a plein d'opportunités, puis c'est en discutant avec les autres membres du comité qu'on va identifier, nous, ce qu'on veut faire pour la prochaine année, pour le prochain 2 ans, pour le prochain 3 ans. Donc, c'est vraiment plus des opportunités. Peut-être un petit défi, en effet, que je vois, c'est question, bien sûr, de la langue. J'ai parlé un petit peu du bilinguisme. Des fois, c'est assez difficile. Tu as 14 personnes qui parlent en même temps au téléphone pendant un appel conférence. C'est de s'exprimer dans sa langue maternelle et que tout le monde puisse comprendre adéquatement, ça peut être un défi. Donc, mais habituellement, tout le monde est assez ouvert au fait de discuter soit en français ou en anglais. Puis, je pense que c'est important de pouvoir échanger puis de partager. Puis, dans le fond, on va pratiquer notre langue seconde, qui est pour moi l'anglais, qui est pour d'autres anglophones, qui va être le français. C'est un défi, mais en même temps, c'est un défi qui est intéressant à relever.
Une belle opportunité de partage entre les cultures et entre les langues que nous parlons. Alors, Christian Clément, co-président du comité des jeunes leaders du Réseau canadien de développement économique communautaire. Écoute, je te remercie beaucoup. Oui, tu veux rajouter?
Oui, et je voudrais aussi féliciter Jean-Sébastien Dufresne, qui est maintenant aussi sur le comité des jeunes leaders. Donc, félicitations.
Oui, on peut lui faire une main d'applaudissement, oui. Merci beaucoup, Christian. Alors, bien sûr, un comité dont on va suivre très étroitement les progrès dans les prochains mois. Alors, Christian Clément, merci beaucoup pour ta participation à l'émission.
Salut, à la prochaine.